Et je reçois, elle est au bout du fil, Anne Hébert, directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec. Bonjour, Madame Hébert.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, ça me fait plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous.
Ben moi aussi, je dois vous dire que vous avez un très, très beau nom, Anne Hébert, comme l'écrivaine. Alors, quels sont les services que vous offrez à la population, Madame Hébert?
Bien, l'Office des personnes handicapées a plusieurs rôles, puis je pourrais les expliquer un peu plus tard, mm-hmm. mais une de nos fonctions, c'est d'informer, de conseiller, d'accompagner, de représenter des personnes handicapées et leurs familles dans les démarches d'accès à l'information sur les programmes et services. Donc, on a dans les services directs deux types de services. Le premier, là, c'est vraiment ce que nous, on appelle l'accueil référence, c'est les personnes handicapées et leurs familles qui veulent avoir d'informations sur les programmes et services offerts peuvent appeler à l'office pour avoir cette information-là. Il faut savoir qu'il y a plus de 240 mesures au Québec là, qui sont destinées aux personnes handicapées. Et notre deuxième type de service, c'est au-delà de l'information qu'on peut donner, les personnes handicapées parfois ont besoin d'être soutenues, accompagnées dans leur démarche pour obtenir ces services-là. Donc, on offre un service d'accompagnement et de conseil là, pour accompagner les personnes là, dans leur démarche sur l'accès aux services. Mm-hmm. Et ces services-là, on couvre l'ensemble là, du Québec, l'ensemble des régions. Les personnes là, qui accompagnent les personnes se déplacent là, dans les lieux où vivent les personnes, où elles rencontrent des difficultés.
Merci, d'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle du plan stratégique 2014-2019. L'un des objectifs de ce plan de l'Office consiste à établir des collaborations avec des partenaires impliqués dans l'offre de services aux personnes handicapées, à leurs familles, à leurs proches. Pouvez-vous nous donner des exemples de partenariats que vous avez établis?
Oui, il faut bien comprendre que, comme je disais, qu'il y a plus de 240 programmes et mesures. Donc, c'est pour ça qu'on offre un service d'accompagnement ou d'accès à l'information. Puis ça peut être difficile hein, pour les personnes handicapées de connaître tous les programmes sur groupe.
Oui.
Et notre objectif là, dans le plan stratégique, c'est de faciliter pour les personnes handicapées, leurs familles, l'accès au programme, quelle que soit la première porte auxquelles ils s'adressent. Donc, l'office est une de ces portes-là, comme je l'ai expliqué, mm-hmm. mais les personnes handicapées peuvent s'adresser à un autre organisme public, ou par exemple à Service Québec, au curateur, ou même à une association de personnes handicapées pour avoir accès à l'information. Donc, l'objectif qu'on veut faire, là, des ententes de collaboration, c'est d'établir des ententes où, quelle que soit la porte, ça soit bien entendu une collaboration avec l'Office pour qu'on puisse fournir l'information sur les programmes existants, que ça soit à disposition des organismes auxquels s'adresse la personne et qu'il peut avoir d'autres coordinations comme du co-référencement. Ça veut dire qu'il les réfère facilement à l'Office pour éviter que les personnes handicapées et leurs proches aient beaucoup de démarches à faire.
Oui, alors vous
donc,
agissez comme guide.
L'esprit de collaboration. Comme guide, on veut orchestrer un peu entre ceux qui détiennent l'information, qui sont des portes d'entrée, que ça soit facilité, là, que ça devienne simple.
Oui, parce que sans ça, ça peut devenir labyrinthique. Alors,
exactement.
Madame Hébert, allez-y.
Comme exemple, vous me demandiez des exemples. On a une entente avec Service Québec, qui est le guichet unique pour les programmes gouvernementaux. Quelqu'un qui appelle à Service Québec, qui pose des questions sur les programmes destinés aux personnes handicapées, bien, si on voit qu'il y a une information, Service Québec sait que s'il y a une information un peu plus détaillée, bien, il y a un référencement automatique qui se fait vers l'Office. C'est un exemple. Donc, il y a actuellement des ententes aussi avec la ligne à Buéné. Donc, on est en négociation là, pour la conclusion d'entente.
Un exemple parmi tant d'autres.
Oui.
Et j'aimerais revenir sur une histoire qui a été publiée récemment, c'est la semaine dernière dans le Journal de Montréal. C'est un article qui racontait l'histoire d'une personne amputée, Daniel H. Lantaigne, qui a été souvent insultée pour sa vignette de stationnement. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas d'après vous?
C'est toujours un peu désolant de voir ce genre de situation, mais on peut le prendre sur deux angles. C'est-à-dire que d'un côté, qu'il y a une certaine vigilance de la population à dire ben il faut que les stationnements réservés soient respectés, ben c'est un bon signe qu'il y a une certaine vigilance, mais en même temps, ça démontre aussi qu'il y a une méconnaissance de la population quant à l'objectif de la vignette.
Ah oui, comme disait M. Lantaigne, aucune personne handicapée ne se sent VIP parce qu'elle est stationnée près de la porte.
Exactement. C'est vraiment... Ce programme-là vise que les personnes puissent se déplacer de leur voiture ou à un emplacement sans compromettre leur santé ou leur sécurité. Il faut bien comprendre que c'est un processus bien établi, ce programme-là. On donne pas, là, la vignette n'est pas accordée sans rigueur là, à n'importe qui. Il y a vraiment une évaluation qui est faite.
C'est pas un bar ouvert, comme vous l'avez dit, je crois.
Exactement. Ouais. Donc, je pense, comment répondre à ces difficultés-là? Ben, il faut davantage sensibiliser la population.
De quelle façon?
Par des programmes d'information. Nous, on utilise beaucoup aussi le levier que sont les plans d'action annuels à l'égard des personnes handicapées que doivent produire annuellement les municipalités de plus de 15 000 habitants. On leur suggère de faire des actions sur le respect des vignettes de stationnement, de la sensibilisation. Puis on a des exemples très intéressants là de gestes qui sont posés par des municipalités dans ce sens-là. Par exemple, la ville de Boisbriand a mis en place une opération policière là, civiste qui vise à augmenter le respect des places de stationnement. On a aussi la ville de Baie-Comeau qui a pris la décision d'augmenter la surveillance des places de stationnement. Donc, on essaie beaucoup, via ce levier-là, nous, de faire une sensibilisation. Puis, il y a également un autre moyen, c'est la formation du personnel, des fois dans les lieux publics, dans les, tu sais, des services généraux, où on forme sur les incapacités. Elles sont pas toujours apparentes, les incapacités, pour mieux faire comprendre que les stationnements réservés, c'est pas juste pour les personnes en fauteuil roulant.
Alors, il y a un grand travail à faire de sensibilisation, Mme Hébert. Il va falloir se laisser ici, mais je suis certaine qu'on va avoir l'occasion de se reparler.
Mais ça me ferait plaisir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.